Vous écoutez, on lit pour vous.
Les bons pauvres et les mauvais pauvres. Un texte de Rima El-Khoury, paru le 8 mai 2025 dans la presse. Toi, Pierre, c'est pas pareil, toi t'es malade. Mais les BS, eux, exploitent le système. C'est le genre de remarque qui fait sourciller Pierre Cardinal depuis ce jour où sa vie a basculé. Après avoir perdu sa santé et son emploi, il a dû se tourner vers l'aide financière de dernier recours. Au bout d'un long voyage bureaucratique en enfer, l'homme a réussi à prouver que ses troubles de santé mentale le rendaient inapte au travail. Il a officiellement été reconnu comme ayant des contraintes sévères à l'emploi, ce qui, dans le regard des autres, le faisait accéder au statut de « bon pauvre », méritant vraiment l'aide de l'État. Sous un air bienveillant, ce type de commentaire trahit des idées toutes faites sur l'assistance sociale. La notion de contrainte sévère à l'emploi, ça pose ce problème des bons pauvres et des mauvais pauvres. C'est la source de beaucoup de préjugés, observe celui qui est père-chercheur, membre du comité de gouvernance de la chaire de recherche sur la réduction des inégalités sociales de santé de l'UQAM, RISS. C'est justement pour déconstruire ces préjugés que Pierre Cardinal agit comme livre vivant dans le cadre d'un fabuleux projet de la chaire RISS. L'initiative, qui sera déployée partout au Québec, vient d'être lancée dans le cadre de la Semaine de la dignité des personnes assistées sociales. Ces personnes constituent le groupe social le plus stigmatisé au Québec. Et à la cagnotte des préjugés, les prestataires d'assistance sociale dits aptes au travail gagnent le gros lot. Derrière ce jugement sévère, il y a deux variables incontournables. La perception du niveau de contrôle sur leur existence que des personnes en situation de pauvreté détiendraient et la perception de leur aptitude au travail. Moins une personne est considérée comme ayant de contrôle, une personne avec un handicap, une maladie, plus elle sera jugée avec sympathie et inversement, observe Normand Landry, titulaire de la chaire de recherche du Canada en éducation aux médias et droits humains et professeur à la TELUC. De même, on jugera qu'une personne assistée sociale, considérée comme apte au travail, mérite moins une aide publique qu'une personne dite inapte. Accentuer les préjugés. En catégorisant les prestataires de l'assistance sociale selon leur capacité à travailler ou pas, l'État lui-même contribue à accentuer les préjugés à leur égard. Selon cette vision des choses, il y aurait d'un côté de bons pauvres qui ne peuvent pas travailler et qui méritent une aide publique plus substantielle. Et de l'autre, il y aurait ces mauvais pauvres qui ne voudraient pas travailler et qui profiteraient éhontément d'un filet social de plus en plus coûteux tissé par les impôts d'honnêtes travailleurs. La réalité, c'est que le taux d'assistance sociale au Québec a baissé de façon considérable depuis 30 ans. Même avec la hausse récente du nombre de demandeurs d'asile, on parle de moins de 5% de la population de 64 ans et moins, environ 344 000 personnes. On est loin du sommet historique de 1996, où le taux était de près de 13%. Plus de 800 000 personnes. La réalité, c'est aussi qu'une grande proportion des personnes assistées sociales, considérées officiellement comme sans contrainte à l'emploi, sont dans les faits dans des situations compliquées qui les laissent très loin du marché du travail. Ce n'est pas qu'elles ne veulent pas travailler, mais bien souvent qu'elles ne peuvent pas pour toutes sortes de raisons qui ne rentrent pas dans les petites cases des formulaires de l'assistance sociale. Bien qu'elle soit présentée par le gouvernement comme une refonte plus humaine et simplifiée des programmes d'assistance sociale, la loi modernisant le régime d'assistance sociale, adoptée l'automne dernier, et risque de compliquer davantage la vie de personnes en situation de pauvreté. Les petites cases déjà étroites le seront encore davantage pour certaines, notamment des mères chefs de famille monoparentales d'enfants d'âge préscolaire qui se verront couper une allocation mensuelle de 161 $ pour contrainte temporaire à l'emploi. Couper les moins nantis, c'est cheap en esti, scandait mercredi le Front commun des personnes assistées sociales du Québec. En 2006, un rapport interne du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale signalait par ailleurs que seulement 8,5% des adultes dits « aptes au travail » étaient véritablement en mesure de décrocher un emploi, en raison notamment de leur trop faible niveau de scolarité. Qu'en est-il aujourd'hui? Difficile à dire. Officiellement, 45% des adultes prestataires des programmes d'assistance sociale sont considérés comme aptes au travail. Mais derrière ces statistiques, il y a trop souvent une réalité de vulnérabilité extrême à 1000 lieues de l'image méprisante du BS affalé sur son sofa. Les 2/3 des demandes pour contrainte sévère à l'emploi sont refusées au premier tour, note Virginie Larivière, agente de recherche à la chaire RISS. Ceux qui finissent par voir leur demande acceptée doivent affronter un parcours du combattant. Pierre Cardinal peut en témoigner. Même après que son médecin lui a dit qu'il n'était pas en état de travailler avec son trouble d'anxiété généralisée et son trouble dépressif majeur, il n'était pas au bout de ses peines. Moi, innocemment, je pensais qu'en faisant ma demande d'aide de dernier recours, je pourrais tout de suite avoir accès à l'état inapte au travail, comme on disait à une certaine époque. Mais ça a été un processus de plus de 2 ans. Un enfer, à faire demande par-dessus demande, à un moment où j'étais complètement à terre, en pleine dépression, avec l'anxiété et tout le reste. À un moment de leur vie, où des gens se battent avec l'énergie du désespoir juste pour survivre. Ils doivent aussi se battre pour prouver qu'ils ont des contraintes sévères à l'emploi pour aspirer à une vie un peu plus décente. Être pauvre, c'est un travail à temps plein, aime répéter Pierre Cardinal. Veiller, dans une société riche comme la nôtre, à ce que tout citoyen puisse vivre dans la dignité devrait l'être aussi. C'était « Les bons pauvres et les mauvais pauvres », un texte de Rima El-Khoury, paru le 8 mai 2025 dans La Presse.
Augmentation des décès liés au travail au Québec en 2024. Un texte de Lia Lévesque de La Presse canadienne paru le 28 avril 2025 dans Le Devoir. Le Québec a enregistré, en 2024, 246 décès liés au travail, une augmentation de 36 décès par rapport à l'année 2023, indique lundi la CNESST. Chaque année, le 28 avril est la journée où l'on commémore les personnes décédées ou blessées au travail. Ce jour de deuil est souligné dans plus de 70 pays, rappelle la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail, CNESST. Pour ce qui est des 246 décès enregistrés en 2024 au Québec, il s'agit principalement de décès liés à une maladie professionnelle, soit 172 d'entre eux. Pour ce qui est des accidents du travail, 96 721 personnes en ont subi un en 2024, alors que 10 403 ont contracté une maladie professionnelle. Le ministre du Travail, Jean Boulet, rappelle que la santé et la sécurité du travail doivent primer dans tous les milieux de travail et que la prévention doit être l'affaire de tous. Au-delà des chiffres auxquels tout le monde doit réfléchir et s'attarder, se trouvent des proches, des membres de la famille, des amis et des collègues de travail qui sont directement touchés, laissés derrière et profondément marqués, a-t-il déclaré à l'occasion de ce jour de deuil. C'était « Augmentation des décès liés au travail au Québec en 2024 », un texte de Lia Lévesque de la presse canadienne paru le 28 avril 2025 dans Le Devoir.
Huit choses à arrêter de dire aux petites filles. Un texte de Brigitte Hébert-Carle paru le 6 mars 2025 dans Urbania. Dans les années 1960, mes grands-parents avaient une shop de couture. Ils vendaient des boxers à des magasins comme Croteau, l'ancêtre de l'aubainerie. Ma grand-mère Rachel s'occupait de tout. Les deals avec les clients, la gestion des couturières, les payes. C'était elle qui faisait rouler la business pendant que mon grand-père bisounait sur les machines à coudre, mais elle n'avait pas le droit de signer un chèque sans son autorisation. Le 8 mars est la Journée internationale des droits des femmes. En cette journée, on en profite pour souligner les nombreuses avancées qui ont permis à notre société d'être un peu plus égalitaire, tout en gardant en tête que de nombreux combats sont encore inachevés. Question de se donner une longueur d'avance, pourquoi ne pas donner l'exemple à nos enfants, et ce, dès leur plus jeune âge? Parce que parfois, certaines phrases qui semblent innocentes peuvent avoir un impact profond sur la façon dont une petite fille se perçoit. Les mots ont un pouvoir qu'on ne soupçonne pas. Repensons donc à notre façon de parler. Voici donc 8 exemples de commentaires à éliminer de notre vocabulaire quand on interagit avec des tout-petits. 1. T'es belle. Complimenter l'apparence, c'est bien, mais c'est aussi important de souligner d'autres qualités comme l'intelligence, l'humour ou la créativité. Qu'on le veuille ou non, complimenter les enfants sur leur apparence sous-entend qu'on y accorde beaucoup d'importance. En effet, plus on commente le physique de notre enfant, plus on l'encourage à construire son estime de soi autour de cette caractéristique. Est-ce que ça signifie qu'on ne peut pas dire à notre fille ou à notre nièce que ses Lulu ou son T-shirt de la Reine des Neiges lui vont bien? Non. Le but n'est pas d'évacuer tout compliment en lien avec le physique. Plutôt, il s'agit de doser les commentaires afin que les enfants grandissent en étant bien dans leur peau. 2. Sois une gentille petite fille. Selon une étude de l'Université Stanford, pour qu'une femme soit désirable, on s'attend à ce qu'elle soit chaleureuse, loyale et heureuse. Comme les parents veulent généralement que leurs enfants soient acceptés par la société, ils ont tendance à renforcer ces stéréotypes. Ainsi, les filles sont encouragées à faire preuve de calme et de patience, alors qu'on tolère que les petits garçons soient agités et brassent de l'air. En encourageant une émotion en particulier, comme la gentillesse, on insinue sans le vouloir que les jeunes filles devraient être aimables, tout en risquant de développer chez elles le syndrome de la gentille fille, qui se définit par une peur de décevoir, une envie de prioriser les besoins des autres et de vouloir faire plaisir à tout prix. 3. Le hockey, c'est un sport de gars. Ces dernières années, le hockey féminin a connu un véritable essor et un nombre croissant de jeunes filles s'intéressent de plus en plus à notre sport national. malgré les matchs de la Victoire de Montréal qui attirent des foules records, les petites filles qui s'intéressent au hockey se heurtent encore trop souvent au regard désapprobateur de certains. Au même titre que le ballet n'est pas réservé aux filles, le hockey n'est pas réservé aux garçons. Plutôt, laissons aux filles l'occasion de rêver de devenir la prochaine Marie-Philippe Poulin. 4. As-tu un petit chum à la garderie? À l'âge préscolaire, c'est tout à fait hors propos, voire carrément étrange, de s'intéresser au statut matrimonial des petites filles. Tant pour les filles que pour les garçons, à cet âge, les concepts d'amour et d'amitié sont encore flous et en constante évolution, et c'est bien correct comme ça. Selon Naître et grandir, c'est souvent l'entourage qui donne une connotation amoureuse aux relations des enfants en leur demandant s'ils ont des amoureux ou amoureuses. Avec ces questions, on leur fait croire que c'est normal d'avoir un chum ou une blonde à son âge et que c'est ce qu'on attend de lui. Toutefois, nos enfants parlent d'amoureux ou d'amoureuses simplement parce qu'ils aiment leurs amis. On peut donc se calmer le pompon avant d'inscrire notre enfant de 5 ans à OD Chypre. 5. Elles vont briser des cœurs. J'ai beaucoup de difficultés à comprendre comment on peut valoriser le fait qu'une fille brise le cœur des autres plus tard. Pourquoi ne pas plutôt l'inspirer à avoir des relations amoureuses saines et durables, fondées sur le respect et la confiance, plutôt que de collectionner les cœurs brisés? Pourquoi valorise-t-on la notion de jouer avec les sentiments des autres au lieu de promouvoir des relations sincères et épanouissantes où chacun se sent respecté et aimé pour ce qu'il est? 6. Tu portes encore une robe de princesse? Peut-être qu'elle adore la robe de princesse pour les paillettes et les couleurs. Ou peut-être que c'est simplement parce qu'elle se sent à l'aise dans ce vêtement qui lui permet de bouger librement. Quoi qu'il en soit, il n'est pas nécessaire de toujours souligner ou analyser le choix vestimentaire des petites filles. D'autant plus que s'affirmer par ses choix vestimentaires permet d'apprendre à l'enfant à établir ses limites, ce qui lui servira plus tard. Par exemple, pour dire à l'autre qu'il est dans sa bulle ou qu'on n'aime pas comment il nous parle. Ce qui compte, c'est que les petites filles soient confortables dans leurs vêtements, qu'elles puissent s'exprimer à travers leurs choix et se sentent libres d'explorer leurs goûts, même si certaines combinaisons de couleurs peuvent parfois provoquer une cécité temporaire chez leurs parents. 7. Quand est-ce que tu te fais percer les oreilles? On peut-tu s'entendre que c'est pas quelque chose qui presse? Mais alors là, pas du tout! Le choix de se faire percer les oreilles ou non est avant tout une décision personnelle. Imposer de telles pratiques ou suggérer qu'elles sont nécessaires pour être jolies, exerce une pression inutile sur les filles. D'ailleurs, si certains parents ont tendance à croire qu'il est préférable de faire percer les oreilles tôt pour que l'enfant ne ressente pas trop de douleur, sachez que c'est tout à fait faux. Il est préférable d'attendre que l'enfant ait reçu son vaccin contre le tétanos, donc après 6 mois, selon le calendrier de vaccination québécois. 8. Plus tard, tu seras une bonne maman. Il y a une distinction entre avoir un côté maternel et être une bonne maman. La personne qui émet ce commentaire veut probablement dire que la petite fille est attentionnée, empathique, douce et aimante. Mais pourquoi ne pas simplement valoriser ses qualités, sans les associer systématiquement à la maternité? Vouloir ou non avoir des enfants est un choix personnel qui mérite d'être respecté. Il est essentiel que les filles sachent qu'elles sont libres de choisir leur propre destinée, de poursuivre leur passion, leur carrière ou d'autres aspirations. En cette Journée internationale du droit des femmes, encourageons l'individualité, les rêves et la liberté d'expression des jeunes filles. Ma grand-mère n'aura jamais connu ma fille, mais elle l'aurait certainement incitée à explorer toutes les possibilités sans s'imposer de limites. Parce que ma cocotte, au moins, n'aura besoin de l'autorisation de personne pour ouvrir un compte à la banque ou pour signer un chèque. C'était 8 choses à arrêter de dire aux petites filles. Un texte de Brigitte Hébert-Carl, paru le 6 mars 2025 dans Urbania.
Un code de couleur pour voir le doc. Un texte de Marie-Andrée Chouinard, paru le 25 avril 2025 dans Le Devoir. Sur le terrain glissant de l'accès des Québécois à des soins de santé, le gouvernement Legault franchit un pas de plus en proposant de lier 25 % de la rémunération des médecins omnipraticiens à des critères de performance encore inconnus. Dans sa proposition faite aux médecins de famille et dévoilée jeudi le 24 avril 2025, il confirme en outre son intention d'associer un code de couleur à l'état de vulnérabilité des patients qui permettrait de les diriger vers le bon professionnel de la santé. Les négociations entre Québec et les médecins de famille sur leurs conditions de travail ont franchi une étape cette semaine avec la divulgation d'une portion des contenus discutés à la table. Si les deux parties partagent le même souhait d'améliorer les soins de santé au Québec, leurs idées pour y arriver ne sont pas les mêmes. On ne peut pas blâmer le gouvernement de vouloir modifier le mode de rémunération des médecins, car il se pourrait que ce mode contribue pas en tout, mais en partie, à certains des tiraillements incessants vécus par le réseau de la santé. Il faudra toutefois voir de quels critères de performance on parle exactement, car le diable pourrait se cacher dans les détails. En espérant lier le quart de l'enveloppe globale destinée aux médecins à des critères de performance clinique, Québec fait le pari d'avoir ainsi des médecins plus efficaces. Il veut briser le modèle du paiement à l'acte et des forfaits et propose que 50 % de la rémunération soit liée à un modèle de capitation basé sur les patients suivis avec des forfaits variant selon le niveau de vulnérabilité des patients. Est-ce ainsi qu'on garantira à tous les patients qui en ont besoin l'accès à un soin de santé au moment où ils en ont besoin? Plusieurs gouvernements, réformes et négociations se sont bâtis autour de cette promesse sans qu'elle ne se réalise. On a fini par glisser doucement dans un certain scepticisme. Le code de couleur mis en avant soulève d'importantes questions. Vous êtes au vert? Dieu merci, vous êtes en santé. Vous êtes au rouge? Malheureusement, vous souffrez d'une affection majeure. Entre ces deux pastilles, le jaune et l'orange, vous placent en condition mineure ou modérée. On a compris que, dépendant de votre couleur, vous verrez un médecin, une infirmière spécialisée ou encore un pharmacien. Dans certains points de santé où ce modèle est éprouvé, il est vrai que l'accès à des professionnels de la santé autres que des médecins est un véritable succès. Toutefois, on ne peut pas dire que les tentatives des dernières années, avec le guichet d'accès à la première ligne, ont permis aux patients de trouver une réponse à leurs besoins dans les temps espérés. Nous sommes dubitatifs. Cette classification de couleurs est tirée d'une étude commandée par Québec en 2024 à l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux, INESSS. En examinant l'utilisation des services de première ligne en 2022-2023, l'INESSS avait conclu à d'incroyables inégalités entre les patients orphelins et les patients inscrits. Une personne sur quatre, 2,1 millions de personnes, n'était pas inscrite auprès d'un médecin de famille et un demi-million d'entre elles avaient un problème de santé modéré ou majeur. L'idée de rebrasser les cartes pour rediriger les plus malades vers les médecins a ainsi germé. S'il n'y avait pas en toile de fond une terrible pénurie de médecins de famille au Québec et des départs à la retraite encore prévus, et des médecins de la nouvelle génération n'offrant plus le même modèle de disponibilité que les générations précédentes, on n'en serait pas là à s'affubler de pastilles de couleur comme si on se magasinait une bonne bouteille. Il manque encore 1500 omnipraticiens au Québec. L'attrait du privé et l'exode de certains vers d'autres provinces concourent à aggraver un problème de ressources déjà criant. Face aux besoins sans cesse croissants d'une population vieillissante, les autorités sont contraintes d'envisager des modèles qui ne correspondent en rien à l'idéal, mais satisfont des conditions dictées par l'urgence. Cela rappelle le cri du cœur lancé par le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, en pleine rentrée des classes, quand des centaines de titulaires manquaient à l'appel. Celui-ci s'était alors abattu sur la perspective rassurante d'avoir à tout le moins un adulte par classe. Si on n'est pas capable d'avoir ni des enseignants avec brevet, ni des enseignants sans brevet, à ce moment-là, il faut s'assurer à tout le moins qu'il y a une personne dans la classe pour s'assurer que la classe débute, avait dit le ministre Drainville en août 2023. La proposition que Québec met sur la table a le mérite d'imaginer autre chose que le modèle actuel qui est désuet. Mais les médecins n'ont pas tort de craindre les effets potentiels d'un système de classification des patients. C'est entre autres la prévention qui risque de passer à la trappe, alors qu'il s'agit d'une des manières les plus efficaces de contrôler les coûts de santé. C'était un code de couleur pour voir le doc. Un texte de Marie-Andrée Chouinard paru le 25 avril 2025 dans Le Devoir.